Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Salut, salut, comment ça va les petits loulous?
Pour parler du luxe, on est dans l'ambiance. Bonsoir, ça va Meuniel?
Ça va et vous?
Ça va super.
Moi je vais me faire foutre.
Ça va Léo?
J'ai dit vous.
Bah ça va, oui, toi oui.
Tu es dans vous.
Toi tu m'as posé la question.
Il te vous voit.
Ça va très bien et toi Romain?
Ça va très bien, merci.
Bah, ça fait plaisir d'avoir des échanges comme ça.
Eh ben super.
Allez. Bonne soirée, j'espère que ça vous a plu.
Cet épisode j'ai adoré.
Alors, parce que, et je le fais pour ceux qui nous écoutent, parce que je sais que Léo et Emmanuel à chaque fois me disaient il faut préparer le sujet, c'est un peu trop compliqué,
c'est
etc.
Fou, hein, on dit des trucs improbables,
hein,
Emmanuel.
C'est fou. Hein.
On a des conseils
de fou.
Et à chaque fois, je vois plusieurs fois quand est-ce que vous parlez du luxe. Donc, c'est pas chez moi qu'il faut demander. Je me suis juste dit soit l'initiative de lancer le sujet. Mm-hmm. Je vais essayer un petit peu de l'organiser à mon humble échelle. Mais on fait confiance à Emmanuel et surtout à Léo pour réagir. On parle du luxe aujourd'hui.
Ouais.
C'est quoi le luxe?
Alors moi j'ai une description que j'aimerais bien confronter à celle de Manuel parce que je pense que tu ne seras pas d'accord avec ça. Et il y a une partie de moi qui n'est pas d'accord avec elle.
Ah oui mais ça c'est normal, jusque là tout est normal, tout est respecté. Est-ce que tu veux dire une définition plus qu'une description?
Oui, une définition mais qui n'est peut-être pas tout à fait exacte.
Tu as la tienne?
J'ai la mienne. C'est pour moi une dépense improductive.
Ah ça commence dans la dépense?
Oui.
Ok.
Oui.
On y est, quoi.
Pour carrément. Moi, c'est un achat, le luxe.
Bah, ça peut être une expérience
avant
que tu payes
oui,
pas.
Que tu payes. Ah oui, non, mais d'accord. Mais toi,
tu peux rentrer dans une belle boutique.
Depuis que tu regardes des philosophes qui lui parlent de collier de pâtes, lui, on l'a perdu, en fait.
De collier de pâtes?
Vas-y, Léo, je te coupe.
C'est
vas-y,
incroyable. Vas-y. Donc, c'est une dépense improductive, superflue, mais dont Victor Hugo disait que avoir la haine du luxe reviendrait à avoir la haine des arts. Donc quand bien même c'est superflu et souvent improductif, ça reste quelque chose qu'il faut maintenir du moment qu'on peut se le procurer.
Je suis assez d'accord avec ça.
Ah ouais, ok. Mmh.
Moi j'ai une définition différente.
Mmh.
Moins concrète, moins liée à un acte d'achat ou une dépense. Je dis le luxe, c'est le politiquement incorrect.
Ok, pourquoi?
Bah parce qu'à partir du moment où tu peux te permettre d'être politiquement incorrect, tu vis dans le luxe. Le luxe, c'est l'indépendance d'esprit, c'est la liberté, c'est tous ces éléments-là, en fait. C'est ce que vont te vendre, d'ailleurs, aussi des marques de luxe.
Mmh.
Une projection de tout cela. Disons, tu peux t'affranchir des codes, tu peux porter des choses étonnantes, différentes, uniques, pour te vendre cette liberté.
D'un point de vue produit, il y avait plusieurs mots-clés qui reviennent assez souvent, c'est l'exclusivité, la qualité supérieure, le prestige, l'expérience personnalisée, l'innovation et la créativité. Ces mots-clés représenteraient le luxe.
Bah tu vois, tu me parles pas d'expérience gratuite, là.
Bah, pour moi, le luxe peut se vivre aussi quand tu vas dans un lieu sans forcément payer. Tu peux avoir, dans ce que te dit Manuel, t'as des patrimoines classés, c'est comme ça, enfin ça se dit comme ça, qui peuvent être, enfin ça peut être du luxe et c'est pas payant. Tu peux aller visiter des lieux qui sont luxueux sans que ça soit lié à l'argent.
Mais le luxe, c'est prendre le temps, c'est disposer de ton temps librement, c'est du luxe déjà.
Non, mais quand on dit c'est un luxe, c'est une expression, mais c'est pas vraiment du luxe.
Bah si. Dans la société contemporaine, te dire je dispose de mon temps librement, je l'organise tout à fait librement et je ne dépends pas des contingences habituelles liées au monde du travail, au travail en équipe, etc. etc. C'est du luxe. Vous vivez une vie de luxe.
Mais ça, c'est un luxe philosophique. j'imagine quand même qu'on va parler de l'industrie du luxe.
Ben, là, c'est...
Pour moi, elle n'est que la conséquence de cette conception des choses.
Mmh, ok.
Manuel.
C'est moi.
C'est quoi ton histoire avec le luxe ? T'as passé 20 ans à construire une boîte qui a beaucoup travaillé pour l'industrie du luxe.
Oui, on a travaillé beaucoup, beaucoup pour l'industrie du luxe, mais moi, ce qui m'intéresse le plus dans l'industrie du luxe, c'est l'artisanat. C'est des métiers rares, des produits rares, ce qu'on appelle les mains d'or, en fait, c'est vraiment des gens qui ont un savoir-faire qui n'existe plus ou qui va peut-être disparaître avec eux.
Donc pour toi, c'est plus associé à la rareté, à l'exclusivité, au prestige, à l'expérience personnalisée, plutôt que au produit qui...
Ça peut se résumer dans un produit.
Ok.
Je veux dire, aujourd'hui, faire du tweet, c'est pas facile. Hein.
Faire du tweet ?
Du tweed.
Non, du tweet, c'est plus simple.
Le tweet, c'est très facile.
C'est quoi le tweed ?
C'est bien ça le problème, d'ailleurs. Ça se voit sur Twitter.
Non, je comprenais pas.
C'est une matière, le tweed.
Ok.
Voilà, c'est une matière qui est très connue comme étant la signature de la maison Chanel.
D'accord.
Les vestes Chanel sont faites en tweed.
Ok.
Voilà, c'est une matière un peu spécifique. Ou faire du galon, qui est la bordure des vestes Chanel. Mmh. Ben, c'est un très très vieux métier qui demande des métiers à tisser rares, okay. Et une expertise et un savoir-faire rare.
Je me suis arrêté au cachemire.
Alors oui, bon, ça c'est une matière.
Oui, voilà.
Ouais. Okay. Mais elle est peu transformée. Il y a pas de, il y a un savoir-faire dans le tissage, on va dire, mais c'est la beauté de cette matière, c'est que il y a alors du bon cachemire ou du baby cachemire qui a été inventé par l'Europeana, une de mes marques préférées, merci. Ça n'est pas un placement produit. C'est la matière est folle, la rareté de la matière fait que ça coûtait évidemment cher, mais il n'y a pas de savoir-faire exceptionnel.
Il y a une citation, il y a un livre que je suis en train de lire qui s'appelle The Luxury Strategy, qui est pour moi assez compliqué à lire parce que déjà il est en anglais, mais en plus il est quand même un peu fat niveau vocabulaire et tout ça.
Te plains pas, t'en es au titre.
Ah, ta gueule. Un produit de luxe est enraciné dans une culture. En achetant un produit de luxe chinois, par exemple, la soie, vous n'achetez pas seulement un morceau de tissu, mais aussi un peu de la Chine. Un produit de luxe s'accompagne dans un petit fragment de son sol d'origine.
Ouais, bah ça c'est vraiment du bullshit marketing.
C'est bien raconté pour dire que dans toute l'histoire des produits, il y a une prime à d'abord à la provenance de ce produit, mm-hmm. mais les pays qui fabriquent cette matière ne sont pas forcément ceux qui savaient la transformer le mieux. C'est pas parce que tu en produis que tu sais en faire quelque chose de cool. Je veux dire, il y a très beaux trucs en soie dans des maisons italiennes qui, par définition, sont pas chinoises. Et pour autant, ils font pas leur soie en Italie.
Mais à la fin, est-ce que c'est pas le luxe ? Est-ce que c'est pas justement une histoire qu'on te vend avant même un produit ? Est-ce qu'on te vend pas une appartenance et...
Bah, bien sûr que si.
On le fait un peu chez toutes les marques. Quand tu achètes du Nike, t'achètes aussi l'image que te renvoie Nike, t'achètes les publicités, la philosophie de Nike. C'est un truc que se sont accaparées un petit peu toutes les marques. Mais c'est vrai que dans le luxe, tu rachètes un peu plus d'histoire. Et c'est pour ça que dans ma définition, je parle de superflu.
Pour toi, l'histoire, c'est superflu ?
Parce que l'histoire est superflu ?
Bah, en tout cas, tel que c'était raconté là, oui, je trouvais ça superflu.
Non, mais là, c'est une fausse histoire, en
voilà,
fait.
Voilà, je trouve ça plus intéressant quand on te parle de comment le matériau a été fabriqué, etc. Parce que ça, à la fin, si tu le ressens dans le produit final, c'est productif.
Ou le fait qu'il y a peut-être 10 ou 15 ou 20 personnes dans le monde qui sont capables de transformer ce produit de cette façon pour arriver à ce résultat-là.
Ouais.
Ce qui existe beaucoup dans la joaillerie, par exemple. Où on voit bien le rapport à la matière et le rapport à l'artisanat, au geste, en fait.
Alors ça, pour moi, c'est quasiment un ingrédient du produit.
Oui.
Pour faire la transition entre le produit et la marque, le logo, je trouvais juste ce passage intéressant. Aucune marque de luxe ne peut espérer survivre si elle s'appuie uniquement sur des clients qui ne s'intéressent qu'au symbole et non à la substance. Ces personnes, celles qui ne s'intéressent qu'au symbole, passeront d'un symbole à un autre, d'un logo à un autre. La marque de luxe est une chose culturelle et en tant que telle, elle doit proclamer sa vérité profonde, celle qui nous fait entrer en résonance avec elle. C'est... Encore une fois, du côté histoire, mais c'est pour faire la différence entre ce que j'appelle une marque bling bling et une marque de luxe. D'ailleurs, beaucoup de produits sont considérés comme du luxe par le grand public, Alors que si tu vas chez Dior et que tu achètes un t-shirt avec marqué Dior en gros, c'est pas un produit de luxe. Par contre, si tu vas chez Dior Couture et que tu achètes un produit chez Dior Couture, là, c'est du luxe. Mais c'est même pas connu et c'est fait pour, quoi. Mmh. C'est fait pour qu'il y en ait qui soient des panneaux publicitaires et que les autres aient accès aux produits qui soient différemment faits.
Je pense que la moyenne des gens pense que l'iPhone est un produit de luxe.
Ah putain, c'est intéressant. Je serais curieux d'avoir les retours, là. Ok.
Cher.
Mais c'est un seul critère.
Oui.
Et moi, je pense qu'on ne peut pas parler de marque de luxe.
Mmh.
Ok.
Parce qu'à partir du moment où t'es une marque... Tu peux plus être, tu vois, il y a un truc qui va pas. Tu peux être une maison de luxe, mais tu peux pas être une marque de luxe.
Et ça, c'est pas du bullshit.
Non, pour autant, la majorité des maisons ont besoin de produits en masse, donc de devenir des marques pour financer leurs produits qui sont véritablement luxueux.
D'accord.
C'est la différence entre la couture et le prêt-à-porter. Le prêt-à-porter, les ventes de prêt-à-porter financent ce que la couture imagine. Et en même temps, le prêt-à-porter est inspiré de ce que la couture fait, en fait.
Et toi qui connais bien cette industrie, t'as pas un exemple d'une marque qui ne fait que du luxe ?
Loro Piana.
Bah, ils font du prêt-à-porter.
Ah oui ? Ah oui, oui.
Je pense qu'une maison aujourd'hui ne peut pas vivre que sur la couture, c'est très difficile.
Okay.
Y a peut-être des maisons, et encore, il faudrait vérifier, je n'ai pas regardé récemment, mais t'as des maisons qui font beaucoup plus de couture que de prêt-à-porter, comme une très belle maison qui s'appelle Elisab, qui est connue pour ses robes, et qui va faire plus de commandes spéciales, etc. Et c'est sûrement ça qui les fait vivre, je pense, et pas vraiment ce qui doit exister en prêt-à-porter. Encore.
Je réfléchis même dans l'industrie automobile. Ferrari, qui est considéré comme une marque de luxe, quand tu achètes une Ferrari, finalement, c'est un produit prêt à porter. C'est un produit qui est produit, tu choisis ta couleur et autres. Par contre, quand tu commences à configurer ta Ferrari tailor-made, ça, c'est une spécificité beaucoup plus rare. Et là, tu vas, avec la maison Ferrari, confectionner tous les cuirs, tous les surpiqûres, tout ce que tu veux, etc.
Oui, mais c'est pas fait à façon. On n'a pas inventé un moteur pour toi. Quand tu vas te faire une robe couture, y a un couturier qui va te faire une robe sur toi, sur ta morphologie.
D'accord.
Enfin, pas pour toi, okay. Pour ta femme, en l'occurrence, ça ira mieux, en fait. Mais,
on n'a jamais essayé.
Mais voilà. Et donc, pour moi, on est là, parce que là, on va mélanger de la rareté, du savoir-faire, des matières, de la durabilité. Là, on commence à avoir des ingrédients qui deviennent luxueux. Et c'est à l'antithèse des gros logos bien reconnaissables. Sauf que si tu ne fais pas des logos reconnaissables sur des pièces signées, tu ne peux pas financer ça. Et si tu ne finances pas la R&D, tu ne peux pas faire des produits de série. C'est les produits de série qui te font vivre et qui financent les milliards de R&D, je fais un parallèle pour Léo, qui permettent de mettre au point des produits de série après. Moi, ça ne me dérange pas, en fait. Et je trouve qu'il y a des produits de série qui sont extrêmement bien exécutés.
Mais qui peuvent être du luxe aussi. Si tu achètes une super Ferrari de série, c'est quand même du luxe.
Oui, c'est bien. Mais n'oublions pas que ça appartient au groupe Fiat.
Non, mais tu vois ce que je veux dire.
Et donc, je fais la démonstration de mon propos.
C'est pas Pagani.
Mais c'est pas le contraire.
Oui, mais il y a des produits de série quand même qui peuvent être du luxe.
Oui, il y a des produits de série de bonne facture. Ils sont bien faits.
Ferrari qui présente une super bagnole, c'est vraiment de bonne facture.
T'aimes le luxe, Léo ?
Oui, j'en consomme pas, mais oui.
Tu te soignes.
Ça t'inspire ?
Tu te soignes.
Bah non, mais j'ai pas du tout j'ai aucun produit de luxe.
T'as des produits qui commencent à être bien faits.
Ouais, mais j'ai rien. Bah, je suis très loin du luxe.
Oui. Mais on était tellement loin, là on commence à l'apercevoir, quoi, si tu veux.
C'est... Je suis très très loin du luxe. Non, oui, j'aime bien ça, j'aime bien le regarder. Je le consomme pas, mais j'aime bien.
Et c'est une industrie qui t'inspire pour ton métier ? Moi, je sais que c'est le cas, par exemple. J'aime bien dans la communication, dans le design, etc. Souvent m'arrêter dans la rue, regarder une publicité d'une grande maison. Et souvent, ça peut m'inspirer, c'est un truc qui me touche, tu vois. Je sais pas si j'en fais quelque chose après, mais...
Pas trop, je suis assez loin de cet univers-là, en fait.
Moi, comme je savais qu'on allait parler de ce sujet, j'avais préparé mes petites notes et je vous ai regroupé mes critères.
Et vous pouvez retrouver sur mon Vinted.
Très bien.
Pas de Vinted, mais...
Manuel qui va chez DHL avec Vinted.
Qui prend des photos dans
le miroir. L'enfer, c'est du luxe. Hein. Et...
mes critères qui font que je pense qu'un produit peut être qualifié de luxe à partir du moment où il réunit la majorité de ses critères. L'ensemble, c'est encore mieux, mais la majorité, c'est déjà pas mal.
Ok.
Le premier élément, c'est la qualité exceptionnelle.
Comment tu le juges, ça?
Bah, la qualité, un truc cheap ou un truc de bonne qualité, ça se voit. C'est la qualité de la matière, c'est la qualité. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce que sinon, on a pour une éternité.
C'est le but du podcast, on va prendre le temps de faire tes points.
C'est la matière, c'est la coupe, le nombre d'heures de travail pour obtenir ce produit fini. Ça participe de la qualité.
Par exemple, si on prend juste la qualité, là je porte des sneakers Nike Air Force classiques.
Non, pas classique, c'est une édition suprême.
Oui, c'est une édition suprême. Mais le matériau est pas différent, ils ont juste mis un logo suprême.
Oui.
Au niveau qualité,
c'est pas ouf.
Ça passe pas le test?
Non.
Ok. Voilà. Donc il faut quand même que ce soit un vrai beau produit.
Ouais, je pense. Il y a d'autres sneakers dans d'autres matières, avec d'autres peaux, d'autres choses possibles.
Un matériau plus rare alors.
Voilà.
Okay.
Et j'ai rien contre la Air Force, j'adore ça, je trouve que c'est une bonne sneaker, mais je trouve qu'elle vieillit très mal parce que, encore plus dans leur version de maintenant, le matériau est pas fou quoi. En fait.
Je dis des conneries si Alexis Vanden, qui est représenté aussi par Influx, qui parle à la fois de streetwear, de luxe, il recommandait des sneakers l'an 20, c'est ça?
Oui, des curbs.
Ouais. Ouais. Je trouve ça joli. Je connais. Ben, c'est pas le truc, moi c'est pareil, tu sors de Nike, je vois pas où aller, pourquoi acheter, etc. Tu vois, mais il y a quand même des beaux produits quoi à côté.
C'est faux, tu peux faire des sneakers sur mesure dans des peaux incroyables.
Faut voir.
Il y a des trucs hyper bien.
Moi, ils tiennent 3 mois de toute façon, après j'ai des trous derrière.
Il y a des maisons de luxe qui fabriquent des sneakers en rehaussant le niveau de qualité. Pourtant, les maisons de luxe ont beaucoup buté sur le sujet de la sneaker. C'est un vrai problème. Pendant tout un moment, ils essayaient de faire des sneakers et s'ils voyaient bien que leurs clients habituels partaient eux aussi en week-end, c'était un peu enlever le balai qu'ils avaient dans le cul et porter eux aussi des sneakers et pas que des chaussures en cuir. Et ils ont essayé pendant très longtemps de faire des sneakers de bonne qualité et c'était toujours très moche et ringard. Pour moi, celui qui a déverrouillé ça, qui a réglé ce problème, c'est Virgil Abloh. Et c'est lui qui a à la fois fait des sneakers de bonne qualité dans une maison de luxe quand il était DA chez Vuitton et qui a commencé à sortir des sneakers qui étaient cool et très bien faites.
Ok.
C'est lui qui après a fait les horreurs chez... Non, c'est pas lui, chez Adidas avec les ailes, etc. Comment il s'appelait lui?
C'est un autre designer.
T'as les Adidas avec les os, les ailes, des trucs horribles là, dans les années tectoniques.
Oula.
J'avais connu ça au lycée. Pas.
Bon, ça c'était mon premier critère. J'en ai un certain nombre en avance, hein, les amis. Le deuxième, c'est l'exclusivité. Bah, c'est-à-dire qu'à partir du moment où un produit est reproduit à l'infini et qu'il y a assez peu d'exclusivité, il est difficile d'imaginer que ça puisse être un produit de luxe.
Donc l'exclusivité, ça n'a rien à voir avec le prix qui serait élevé, c'est vraiment en termes de quantité.
Tu fais chier parce que c'est un autre de mes critères. c'est souvent relié à ça.
Ok.
Parce que quand tu produis en petite quantité, tu ne peux pas amortir ta production de la même façon, donc ton prix, forcément, et si tu commences à combiner les critères qu'on voit apparaître, normalement le prix, bah, alors je vais le dire maintenant, mon dernier critère normalement c'est le prix élevé.
Putain, c'est un critère ça.
Pour moi, c'est un critère. Et c'est un critère pour lequel on peut se faire insulter. Mais parce qu'il est la conséquence de tous les autres.
Bah oui.
La conséquence d'une qualité exceptionnelle sur laquelle tu passes du temps avec des métiers rares. La conséquence du fait que ça soit exclusif et de tous les autres critères que je vais donner après. Bah forcément, t'as un prix élevé. Pour moi, le prix élevé n'est pas vraiment un critère, il est plus un indice.
D'accord, ok.
Pourtant, il y a des choses qui coûtent très cher et qui ne sont pas du luxe.
Et qui sont de la merde. Ouais, ouais. C'est ça. Ouais, ouais.
Mais l'inverse, c'est difficile.
Voilà. Oui, mais c'est difficile de vouloir faire du luxe et de le faire à un prix hyper accessible.
Tu survis pas longtemps, quoi.
Voilà. Ensuite, il y a l'héritage et la tradition.
Ok.
C'est est-ce que tu t'inscris dans une forme d'héritage, de tradition dans ta maison? Est-ce que tu es en train de faire vivre une façon de regarder le monde? Si tu prends... LV par exemple, bah, ils ont un héritage maltier chez Vuitton. Ils ont un héritage sur le voyage qu'ils nous ont vendu pendant quand même très longtemps, qui est en train d'être revisité par par Farrell en ce moment, qui est le nouveau DA homme chez Vuitton, qui amène de nouvelles choses, etc., etc. Mais il y a un héritage dans cette maison, ou chez Goyard, qui est une de mes maisons préférées.
Les maisons de champagne aussi. Il y a quand même tout l'héritage familial à chaque fois, l'histoire, les terres. Enfin, je trouve ça incroyable de se dire que parfois, pendant des décennies, c'est la même terre qui produit le champagne.
C'est surtout que c'est un produit luxueux associé à des moments festifs, etc., etc. Mais en fait, c'est des paysans.
Ça c'est des génies en marketing, en fait.
Mais ce n'est pas du tout péjoratif dans ma bouche.
Non, mais c'est vrai, quoi.
Au contraire. En fait, c'est des paysans. C'est des mecs qui cultivent de la vigne dans une région pas extraordinairement bien équipé pour faire de la vigne à la base. Et donc, ils ont marketé ça il y a un instant, etc., etc. Mais à la base, c'est un vin mousseux, quoi, en fait.
Mais ça, par exemple, l'histoire de la marque, ça me touche pas énormément.
Ça peut, si c'est vraiment une très vieille maison, très familiale, qui a une façon de faire son champagne différemment. On a été à Reims ensemble.
Ouais.
Quand on t'explique les choses, tu ne goûtes pas le produit de la même façon.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Oui, c'est vrai, mais ça a tendance à me faire un peu peur. Je le vois un petit peu comme quand on m'explique qu'il y a une nouvelle médecine qui refait surface et en fait ça c'est utilisé depuis des millénaires. Ça m'inquiète. Je trouve pas que ce soit un gage de qualité.
Alors je sais que tu as très peur de ton rendez-vous avec ton proctologue, mais
non, tu vois, il y a ce côté traditionnel qui pour moi devrait pas être un argument. Je comprends qu'on puisse en tirer un avantage et apprécier l'histoire derrière un produit, etc. C'est peut-être aussi parce que j'ai toujours été que dans une industrie qui doit aller très vite, qui a tout le temps de nouveaux acteurs, etc., que ça me touche moins. Moi, j'ai plutôt tendance à vouloir aller vers la nouveauté et la modernité que vers la tradition.
Je comprends. Je mets héritage et tradition. Voilà. Moi, je trouve que il y a une espèce de compagnonnage dans les métiers du luxe, en fait. C'est-à-dire que les mains qui fabriquent ces produits derrière, il y a beaucoup de tradition. C'est-à-dire que les premières d'atelier... elles sont bourrées d'expérience, elles forment des nouvelles générations, elles savent que ce savoir ne doit pas disparaître avec elles, etc., etc. Et ben ça, c'est un héritage et une forme de tradition qui ne me dérange pas du tout, au contraire, que je trouve sublime.
T'es très loin de la fast fashion, ça c'est sûr.
Ah, là c'est sûr. Mon autre critère, c'est l'expérience client exceptionnelle. C'est-à-dire que je peux pas accepter que l'expérience client soit moyenne ou moins bonne qu'une marque... grand public de tech, et il y a plein de maisons de luxe qui feraient bien de rentrer dans un Apple Store de temps en temps.
Il y en a qui cultivent ce truc là où t'as l'impression d'être mal reçu, qu'on s'en bat les couilles de ta gueule.
Ah oui, j'ai des noms.
Ah, mais c'est fou. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, et je trouve ça fou. On parce que ça donne pas envie, quoi. Enfin, je vois pas qui apprécie se faire chier sur la gueule en plus de dépenser
Oui, ou quasiment qu'il faut candidater pour avoir un produit, ou être mis sur liste d'attente. Ou
bah, l'industrie horlogère. Hein.
Et par exemple,
on s'occupe bien de toi.
Même les sneakers.
Oui, t'as raison. Oui, mais ça se passe plus en ligne. T'as déjà un mode d'emploi pour en avoir une de sneakers.
Ouais, mais c'est un peu aléatoire.
Je te dis demain comment t'achètes une Audemars Piguet. Bah, j'attends la réponse écrite en moins de deux lignes. Vas-y, dis-moi.
Mais est-ce que... Parce que
t'en as pas de...
Moi, je me fais cette réflexion à chaque fois qu'il y a un nouvel iPhone qui sort. J'ai qu'une envie, c'est de donner mon argent à Apple. Et t'as l'impression que parfois, c'est un peu la loterie au moment de faire les précommandes.
Ouais.
Ça m'énerve énormément. Mais est-ce que dans le luxe, il n'y a pas des gens à qui ça plaît ce côté, si je galère à y arriver, à l'avoir, le jour où je l'ai, ce sera encore plus exclusif. Parce que c'est pas qu'une question d'argent.
Alors, il y a deux éléments, je pense, là-dedans. Ce qui le rend plus intolérable chez Apple, c'est qu'on sait que le produit, de toute façon, tu l'auras.
Bien sûr, oui.
C'est qu'une question de timing. Donc, ils font beaucoup d'efforts pour que les commandes se passent le mieux possible au moment où ils annoncent des nouveaux produits. Mais vu les volumes qu'ils brassent, on comprend que ça soit extrêmement difficile de livrer les gens le jour de la sortie du produit, tous en même temps avec une égalité de traitement. Après, il y a des contraintes industrielles presque mécaniques, en fait. Dans les maisons de luxe, il y a deux éléments. Tu combines deux difficultés. La première, c'est que ces produits mettent du temps à être fabriqués et sont donc disponibles en quantité limitée, première chose. La deuxième chose, c'est que tu as des fidèles de la maison et que tu as envie de traiter ces clients fidèles, peut-être avec une forme de priorité par rapport aux clients occasionnels. Tu sors une pièce, tu annonces ta pièce, elle plaît à beaucoup de gens, il y a beaucoup de demandes chez tes clients comme chez, appelons-les, tes prospects, qui ne sont pas des clients réguliers de la maison. Il est assez normal que tu privilégies un peu les commandes face à ton conseiller habituel ou les réservations avec ton conseiller habituel et que tes prospects se partagent le reste du butin s'il en reste. D'autant plus si ce sont des produits qui ne seront pas fabriqués à grande échelle, en grande série, parce que on sait au moment où on le conçoit, au moment où on le fabrique et au moment où on définit son prix que de toute façon, il n'y en aura pas pour tout le monde.
Et tu ne penses pas que des marques entretiennent cette inaccessibilité?
Bien sûr que si.
Et qu'elles te font largement attendre juste...
Bien sûr.
Il y en a qui le font artificiellement.
Ouais.
Il y en a où c'est véritablement lié à une contrainte industrielle et au temps nécessaire pour fabriquer un produit.
On l'avait vu chez Audemars Piguet, on comprend pourquoi ça met du temps.
Parce que ton horloger, il suit la fabrication de ta montre du début à la fin. Et que c'est pas un processus industriel où, comme dans d'autres marques, on fabrique des montres par millions et on fait croire qu'il y en a peu.
Mais je pense que l'inaccessibilité, c'est un sentiment encore plus fort que l'exclusivité. Et je crois que c'est lié au phénomène qui fait qu'il y a beaucoup de personnes très riches qui jouent au poker. C'est parce que c'est un truc que tu peux pas acheter. C'est des gens qui peuvent tout acheter. Une victoire au poker, tu peux pas l'acheter. C'est uniquement le fruit du hasard, de tes compétences, etc. Donc ça devient un truc enfin sexy et de la chance. Donc ça devient un truc qui est à nouveau sexy quand autour de toi, il y a que des trucs qui de toute façon te sont accessibles.
Il y en a beaucoup qui réussissent dans le business et qui doivent se prouver ensuite des choses dans le sport. Parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas l'acheter, le chrono. Quoi. C'est soit ils y arrivent, soit ils n'y arrivent pas. Donc, complètement.
Mais le poker, c'est encore mieux parce qu'ils gagnent de l'argent en plus.
C'est vrai, c'est corrélé.
Autre critère, le symbolisme. Alors, ça peut être historique ou ça peut être beaucoup plus terre à terre. Mais pour moi, un produit de luxe, il revêt un caractère de symbole. Soit pour tout ce qu'il représente dans sa progression à travers le temps, le fait que il soit à l'identique depuis tant d'années et qu'il n'ait jamais bougé parce qu'il n'a jamais vieilli et sa conception était parfaite. T'as des tonnes d'exemples, les Hermès par exemple, là-dessus sur les sacs, les Birkin, les Kelly, etc. Ils n'ont pas bougé, en fait. Ils sont toujours conçus pareil. Soit parce qu'il est une forme d'icône quand tu le portes qui fait que de toute façon on ne le voit pas beaucoup ailleurs. Donc ça devient un symbole. Qui font que les gens se polarisent les uns les autres en fonction des symboles que tu portes.
Ok. J'allais te demander, est-ce qu'un produit de luxe peut aussi être un marqueur social?
Oui.
Ok. Ça, c'est pas un truc que le luxe combat?
Non.
Ok.
Non. Alors après, ils vont t'expliquer que le marqueur social n'est que la conséquence de leur travail et qu'eux ne veulent pas fabriquer un marqueur social. Ils fabriquent des produits rares, d'exception, etc., qui, par voie de conséquence, deviennent des marqueurs sociaux.
Ok.
Mais pour moi, c'est un critère.
Ok.
Et enfin, je pense qu'un autre critère important, c'est l'innovation et la créativité. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de produits considérés comme luxueux aujourd'hui qui sont en fait des idées dont le facteur moteur était l'innovation. On parlait d'horlogerie tout à l'heure, tu prends une Reverso chez Gégère Lecoultre, à la base c'est une innovation pour les joueurs de polo. Il faut qu'on puisse retourner sa montre pour ne pas casser le verre de sa montre avec la crosse quand on joue au polo.
C'est marrant.
À la base c'est une innovation.
Il y a beaucoup d'innovations nautiques aussi.
Oui, il y a dans en fait, quand tu prends beaucoup de maisons de luxe, souvent leur produit marqueur, leur produit signature est issu de l'idée de fixer un problème, de régler un problème à une époque. Après, évidemment, ils l'ont décliné et ils en ont fait des versions plus luxueuses, pour le coup, et qui sont moins là pour régler un problème et plus là pour continuer l'histoire. Mais c'est souvent un critère.
C'est ce qui peut faire rêver dans l'automobile, je pense à Porsche, qui teste des choses en compétition. Pendant plein de compétitions, ils développent des choses qui ne seront pas vendues. Mmh. Et par la suite, quand ils déploient là, sur la dernière GT3 RS, l'aileron qui bouge pour pouvoir mieux te fixer au sol et tout ça, comme en Formule 1, là, ça rend fou les fans parce qu'ils se disent « je vais avoir un truc dérivé de la compétition qui, de base, était inaccessible ». Donc, complètement.
Et donc, par voie de conséquence, ce qui était normalement mon dernier critère, c'est le prix.
Ouais.
Parce que si tu combines tout ce qu'on vient de citer, bah, tu ne peux pas aboutir à un prix abordable.
Je voulais juste revenir sur l'héritage et la tradition. Pour moi, c'est très difficile à conjuguer avec ton avant-dernier point, qui est l'innovation et la créativité.
Bah, non, je trouve pas, moi. Pourquoi ?
Bah, parce que si tu veux rester dans la tradition, je considère que ce sont des freins, c'est un frein énorme à l'innovation d'un produit.
En fait, y a des tonnes. Le parallèle le plus simple, c'est l'horlogerie. Y a des tonnes de maisons qui, parce qu'ils maîtrisaient tellement bien l'héritage et la tradition horlogère, ont pu inventer des complications nouvelles par maîtrise des processus traditionnels et académiques. Donc, vois l'innovation comme une espèce de degré de maîtrise ultime de la tradition de ta catégorie.
Je doute pas que ce soit faisable, mais pour moi, c'est un calcul extrêmement complexe. C'est très difficile de réussir à innover quand les gens et ton public est attaché à ta tradition.
Tu vas toujours leur livrer une part de ce qu'ils attendent. Mmh. Tu peux le trouver ailleurs sur le produit. En fait.
D'un point de vue rentabilité, pour les maisons de luxe, est-ce que le numérique leur permet aujourd'hui d'augmenter leur rentabilité en proposant des expériences exclusives, mais qui coûtent beaucoup moins cher, puisque plutôt que d'organiser des événements dans la vraie vie, réunir leurs meilleurs clients, etc., ils peuvent leur donner accès à des portails en ligne pour avoir des offres sur des produits à commander directement chez soi, des choses comme ça. Est-ce que tu as vu un vrai changement depuis le numérique dans les maisons de luxe, qui, elles, existent parfois, qui sont centenaires, et le numérique, c'est quoi depuis, c'est vraiment développé depuis 20 ans, quoi. Avant ça, est-ce que tu as remarqué quelque chose ?
Sur les 20 dernières années, déjà, ils ont passé à peu près 10 ans à regarder l'industrie numérique et à se dire, c'est pas pour nous.
Ok.
Parce que c'est trop accessible. On y retrouve tous les biens de consommation classiques. Et il y a des tonnes de maisons de luxe qui refusaient d'aller vers le web.
Ah, ça, tu l'as vécu, quoi.
Il y a des tonnes de maisons qui ne voulaient pas vendre en ligne.
Mais en même
temps, qui trouvaient que c'était dégradant, en fait.
Tu perds une grosse partie de l'expérience du luxe.
Oui.
Si t'as un magasin avec une très grosse expérience client, avec je sais pas des senteurs et tout, c'est très compliqué d'aller vers du web.
Il y en a qui ont peur aussi de perdre l'expérience client.
Mais aujourd'hui, je pose la question, combien d'entre elles sont prêtes à se passer de leurs revenus de la vente online?
Ouais.
Je pense qu'il y en a pas beaucoup. Il a fallu un petit peu de temps pour qu'ils puissent se dire. Non, en fait, c'est pas dégradant quand on est une maison de luxe que de vendre ses produits en ligne. Je ne dois pas chercher forcément à faire des sites complexes, spectaculaires, qui sont à moitié cinématographiques. Moi, j'ai connu l'époque avec tous les sites de luxe qui étaient faits en flash, avec le flash plugin. Bon, après, l'iPhone nous a rendu service parce que l'accord qui n'a pas été trouvé a permis d'éradiquer le flash du web, en fait. Mais ce format qui amenait de l'animation, de presque un côté presque cinématographique au site web, en fait, il faisait plus du spectaculaire que de l'efficace. Puis ça a été amoindri par l'arrivée du mobile, le fait que on était dans une période de sobriété où le mobile du début, il faut pas que les images pèsent lourd. Le réseau mobile n'est pas ultra performant, donc il faut que tout soit parfaitement optimisé, efficace, etc. Donc ça a amené tout le monde vers plus de sobriété. Et aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas une seule maison qui pourrait se passer de son expérience online, parce qu'au final, ça leur permet tellement de toucher plus de gens qu'ils ne le toucheraient naturellement par leur réseau de retail, que le, dans la balance, le choix est vite fait.
Et quand tu fais du luxe, est-ce qu'il faut nécessairement que l'expérience soit rapide ? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il te faut ? Une livraison 24 heures ? Si tu vas chercher ton produit en magasin, est-ce qu'il faut que ce soit juste un comptoir où tu retires ton produit, ou alors on t'accueille dans un salon avec un café, etc. À quel point est-ce que quand tu payes aussi cher une expérience globale, il faut l'étendre un maximum ?
Non, pas nécessairement. Moi, je pense que il y a même des maisons qui te diront au moment de ton achat que tu vas attendre très longtemps avant d'avoir le produit.
Ouais. Mais ça participe à l'attente.
Exactement. Donc c'est le contraire de la vitesse dont tu parles, en fait. Donc il y en a certaines qui vont te dire, bon, bah, le produit est là, tu peux l'avoir très vite, etc., etc. Mmh. Ok, dont acte. Puis il y en a d'autres qui vont dire, ok, il faut que tu l'achètes maintenant et tu l'auras peut-être dans un an.
Ouais.
Peut-être. Ah ouais. Et le délai n'est pas contractuel.
Ok.
En 2023, la France, c'est le pays qui a compté en troisième position le plus de millionnaires. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir du coup de plus en plus de concurrence dans le luxe, puisqu'il y a de plus en plus de riches? Ou au contraire, est-ce que pour vous, c'est une industrie qui va rester stable, comme j'ai l'impression, il y a quand même de nouvelles marques et tout ça, onéreuses, mais pas luxe, qui sont arrivées, notamment avec les sneakers dont tu as parlé. Comment vous voyez en fait l'industrie du luxe soit s'adapter, soit au contraire être de plus en plus exclusive?
Bah déjà, ce qu'on peut dire, c'est que l'industrie du luxe, malgré toutes les crises économiques, malgré les guerres dans le monde, malgré tout un tas de sujets, elle ne décroît pas. Au contraire. Elle affiche des croissances insolentes face au reste de l'économie mondiale.
Mais pendant le Covid, il y a eu une petite peur au début, et puis l'industrie du luxe bah, a occupé tous les plus riches du monde qui se faisaient chier, qui étaient sur leur ordi à commander des trucs.
Ça me paraît assez logique. Pour moi, il y en a deux qui vont se stabiliser. Je pense que le luxe va se stabiliser, enfin va rester stable, que l'entrée de gamme va croître d'une manière folle, et que tout ce qui est au centre va prendre très cher. Je pense qu'il y aura de moins en moins de place pour le milieu de gamme.
Je suis d'accord avec ça, mais moi, ça a toujours été ma politique.
Toi, t'as toujours été ta vision. Toi, c'est...
Soit t'es tout en bas et tu cherches la masse et le volume. Tu tires le prix au plus bas possible et tu fais un énorme volume dans ta catégorie pour essayer de refaire tes marges sur la quantité. Soit t'es tout en haut, mais si t'es au milieu, t'es dans la merde, en fait.
Ok.
Donc peut-être qu'il y a des marques milieu de gamme qui vont... devenir des marques de luxe, même si j'imagine que ça demande quand même un savoir, que c'est très complexe. Il y a plein de marques milieu de gamme qui vont, à mon avis, baisser leur prix. Mais il y a d'ailleurs déjà plein de marques milieu de gamme qui sont pas très différentes des marques d'entrée de gamme.
Non. J'ai un avis sur ces marques-là qui se prétendent de luxe et qui ne le sont pas. En fait, qui prennent les codes, les comportements, les gimmicks de l'industrie du luxe, mais qui n'en sont pas du tout. Ouais. Moi, j'ai des marques en détestation.
J'en ai une en tête aussi.
Pourquoi tu balances pas? On s'en fout, on est sur notre podcast, les gars.
Ah, mais je peux, moi. Ah, bah, Cézanne, Balzac, toutes ces marques qui essayent de prendre des codes du luxe et qui n'en sont, mais pas du tout, quoi. C'est catastrophique. Encapsulé dans un discours écolo-bobo à deux balles, avec des convictions à géométrie variable, ça m'exaspère.
Et des marques plutôt très tape à l'œil comme Balenciaga, c'est du luxe ou pas?
Bah, Balenciaga, c'est du luxe, oui. Ça défile, ça fait de la couture, okay. c'est du luxe. Okay. Après, c'est une marque dont l'ADN a toujours été proche de la provocation, en fait.
Ouais, ok, c'est peut-être pour ça que j'ai cette image.
Donc aujourd'hui, ils le réinterprètent, mais à la base, c'est une marque qui, à la cour d'Espagne, va enlever les corsets aux femmes, va vraiment les libérer de ces codes très stricts de la cour royale. Et donc, dans l'ADN de cette marque, il y a le fait d'affronter les règles, de s'affranchir de ces règles-là et d'être provocateur et libérateur. Mmh. Donc aujourd'hui, à notre époque, bah, ça s'interprète de façon très différente. Ils te vendent un paquet de chips avec un imprimé Doritos,
c'est des génies,
en cuir, ultra quali, à un prix, je ne me souviens plus du prix, mais qui doit être indécent, mais ils sont dans la poursuite de leur positionnement et de leur culture, qui est la provocation.
Mon grand-père bien monégasque dirait, Oh, tu sais, t'inquiète, il y en a des gens pour acheter ces merdes-là, ils ont raison de continuer.
Mais pour moi, le luxe, la mode, tout ça, c'est comme l'art, c'est quelque chose que tu peux pas juger.
Mmh.
Parce que si tu commences à le juger, tu remets en question toute sa catégorie, en fait. C'est un truc qui est effectivement qui est superflu, qui te parlera peut-être pas, mais qui parlera à d'autres gens. L'art, c'est impossible à juger. Tu peux avoir ton avis personnel, mais du moment qu'on a affiché une banane sur un mur dans une exposition et que des gens sont là pour la regarder, tu ne peux pas le juger en tant que tel. Tu peux pas dire que c'est pas de l'art. À partir du moment où ça existe, c'est de l'art.
On peut quand même dire que c'est une banane.
Tu peux dire que c'est une banane, mais c'est pas tout à fait une banane parce qu'il y a du scotch dessus.
Eh oui.
Merci les gars.
Avec plaisir.
Je sais pas si on a fait avancer le débat, mais en tout cas,
si, je pense que c'était intéressant.
On a donné notre opinion.
Ouais.
Et c'est pas du luxe.
Yes, let's go. Putain, j'espère que tu l'avais écrite celle-là.
Non, même pas.
Incroyable.
Ciao.
La bise.
Are you ready for truly hydrated skin? Meet Hyaluronic Body Serum, a breakthrough in body care from Osea. It's clinically proven to instantly increase hydration by 161%. Their lightweight, fast-absorbing serum delivers 24 hours of nonstop hydration for silky, smooth skin without the sticky afterfeel. Osea's latest innovation combines the magic of their best-selling Hyaluronic C Serum with a new formula that's good for the whole body and 5 types of hyaluronic acid to target every layer of the skin. Osea is a women-founded, women-led brand that's been crafting seaweed-powered products for nearly 30 years. The best part? Everything Osea makes is clean, vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Treat your skin to clean, vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order site-wide with code SUMMER at OseaMalibu.com. That's OseaMalibu.com, code SUMMER.